Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au Japon. Le Japon qui, il y a quelques jours, déroulait le tapis rouge pour recevoir Donald Trump et multiplie les initiatives pour flatter l'ego du président américain. Il faut dire que le Japon n'a pas été trop maltraité par l'administration Trump, ce qui en fait presque une exception, alors que de toute évidence, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne va pas manquer d'avoir un impact négatif sur le pays. Tokyo a été très habile pour montrer qu'il participait pleinement à l'effort de « Make America Great Again » en investissant aux États-Unis ou en multipliant les commandes de matériel militaire, sans jamais apparaître pour autant comme un vassal de l'Amérique. La stratégie de courtisanerie, une stratégie efficace pour Tokyo, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone depuis Tokyo, Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de plusieurs ouvrages dont apparaître en octobre prochain le modèle japonais en 100 questions aux éditions Thaïlandier. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marie Buissou, représentant de Sciences Po au Japon et auteur de nombreux ouvrages sur le Japon, dont le dernier « Les leçons du Japon, un pays très incorrect » aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Rien n'est jamais garanti avec Donald Trump, mais enfin, pour l'administration américaine, la Chine est la grande puissance concurrente des États-Unis et la confrontation va se jouer sur plusieurs fronts, pas seulement sur le dossier commercial. C'est un régime autoritaire, renforcé par la technologie et une force militaire qui veut profondément remodeler la région au détriment des intérêts et des valeurs des États-Unis. On le voit notamment avec les tensions en mer de Chine méridionale, où Pékin a militarisé plusieurs îlots. Est-ce à dire que dans le schéma actuel, Tokyo et Washington ne peuvent être qu'amis, ou en tout cas alliés? Et quelles sont, Valérie Niquet, les limites de cette alliance?
Alors effectivement, le Japon, surtout le Japon d'ailleurs, met toujours en avant le fait que l'alliance entre les États-Unis et le Japon sont le cœur, le nœud du système de sécurité en Asie et celui qui garantit le mieux la sécurité du Japon. Échapper à cette alliance ou s'en affranchir, comme certains le voudraient peut-être dans les factions les plus à droite dans l'archipel, ça aurait un coût absolument considérable, à la fois un coût de politique intérieure. On voit bien que dès que le Premier ministre a mis en place les réformes des lois de défense, eh bien il y a eu des manifestations très importantes, et ça aurait un coût évidemment au niveau régional, et ça aurait un coût économique considérable que le Japon ne peut pas franchir pour le moment, sans parler des questions de révision de la Constitution. Donc maintenir à tout prix l'alliance avec les États-Unis, c'est absolument essentiel. L'autre élément évidemment, c'est tenter d'échapper aux sanctions américaine en matière commerciale, ce que le Japon a relativement réussi à faire, mais il est toujours sous la menace, puisque Donald Trump a toujours le même discours vis-à-vis du Japon, mais également vis-à-vis de l'Union européenne, qui est de menacer d'appliquer des sanctions si des efforts suffisants ne sont pas faits. Donc on ne peut pas dire que le Japon soit totalement sorti d'affaire d'un point de vue économique avec les États-Unis, même si pour le moment les choses ne sont pas négatives. Et donc cette stratégie de Shinzo Abe, du Premier ministre japonais, qui vise à amadouer le président américain, quel que soit le président, ce qui compte c'est les États-Unis, et il faut absolument, la priorité pour Tokyo, c'est de préserver cette alliance qui est absolument vitale pour la sécurité et pour les intérêts économiques de l'archipel.
Alors Jean-Marie Buissou, est-ce qu'on peut dire que l'alliance américano-japonaise est aujourd'hui plus solide que jamais?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire, ou en tout cas si elle est plus solide que jamais, c'est pas forcément à l'avantage du Japon. Le Japon, dans cette relation, il est victime d'un problème classique qui est le dilemme de la relation triangulaire. Dans un triangle, vous avez trois partenaires, et il y en a un qui est toujours le plus faible. Et le plus faible, c'est le Japon. Et le plus faible est absolument prisonnier des initiatives des deux autres. Et c'est la Chine et les États-Unis. Le Japon, il est entre le marteau et l'enclume. La Chine est son premier partenaire commercial, les États-Unis le deuxième. Il a absolument tout à craindre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mmh. Déjà, au mois de janvier, ses exportations vers la Chine ont diminué de 17%. Et ça, c'est très dur. La Chine tient le Japon, par exemple, par les exportations de terres rares. L'économie japonaise ne fonctionne pas sans les terres rares chinoises. Donc, je dirais qu'une de ses seules choses qu'il a à faire, c'est de se mettre aux abris, et il peut s'abriter seulement sous le parapluie américain. Bon. Donc, M. Abe a câliné M. Trump autant qu'il le pouvait, et tenu M. Trump occupé pour l'empêcher de raconter n'importe quoi sur Twitter pendant son voyage au Japon. Et Abe a très bien joué le coup, c'est-à-dire que Trump a accepté d'attendre que les élections japonaises sénatoriales soient tenues cet été, avant de se prononcer clairement sur les 25% de taxes qu'il prétend imposer, qu'il envisage d'imposer aux importations automobiles japonaises et l'ouverture du marché japonais aux exportations agricoles américaines. Donc pour l'instant, Abe a réussi autant qu'il pouvait le réussir l'épreuve difficile que constituait le passage de Trump, ça c'est sûr.
Alors Valérie Niquet, vous qui êtes à Tokyo, qu'est-ce qui s'est dit dans la presse japonaise suite à cette visite, à ce voyage officiel de Donald Trump au Japon?
La presse japonaise, de toute manière, est toujours assez, je ne sais pas si le mot lénifiant est celui qui convient, mais enfin, on a enregistré que cette visite s'était très bien passée. Bien entendu, on met en avant les risques en matière de guerre commerciale, mais ce qui a fait les gros titres au Japon, c'est le fait que la visite se soit bien passée, que la rencontre que Trump était ravi d'avoir, le premier, il a répété plusieurs fois dans une interview que c'était un honneur particulier, le fait qu'il soit le premier chef d'État étranger à rencontrer officiellement le nouvel empereur. Tout ça a été mis en avant. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, et là on est un peu en dehors uniquement de la relation avec les États-Unis, c'est que ça a été aussi l'occasion pour la presse japonaise, comme c'était en quelque sorte la première sortie officielle aussi du nouvel empereur et de l'impératrice, de montrer que tous les deux étaient capables de s'entretenir dans un anglais parfaitement courant, surtout l'impératrice, avec le président américain, et en lançant un peu quelques idées d'évolution de la fonction impériale. On verra ce que ça donnera, mais on voit bien toujours au Japon cette idée d'utiliser l'étranger aussi pour tenter de faire évoluer les choses. Donc la visite a été considérée comme positive et elle a été positive, il faut le reconnaître. Avec quelqu'un comme Trump, les Japonais s'en sont très bien sortis, même si encore une fois ils ne sont pas du tout, mais là ils sont exactement au même niveau que l'Union européenne, débarrassés de tout risque de sanctions de la part des États-Unis. Ce qui est certain, c'est que je suis d'accord avec cette idée du triangle et on voit bien que les milieux d'affaires au Japon s'inquiètent énormément de tensions trop fortes avec la Chine. Il était d'ailleurs question que Xi Jinping, le président chinois, vienne au Japon cette année, enfin en visite d'État particulière, et ce sera sans doute reporté à l'année prochaine, mais il y a une forte pression dans certains milieux. Il y a en fait une contradiction au Japon entre les milieux qui s'intéressent à la stratégie, qui eux restent extrêmement vigilants sur la menace chinoise en mer de Chine orientale, sur les Senkaku en mer de Chine méridionale, sur la remise en cause du droit international maritime par la Chine, et le fait que celle-ci ne respecte pas l'ordre libéral dont le Japon se veut le champion. Mais on a aussi tout un courant de gens, y compris au sein du PLD, le parti au pouvoir, qui eux seraient pour une amélioration des relations avec la Chine, notamment pour des raisons économiques. Ceci dit, la Chine, une des raisons, la baisse des exportations chinoises, c'est parce que la Chine ressent très fortement ces taxes, ces nouvelles taxes et cette stratégie de pression américaine, et qu'on voit bien qu'en Asie, effectivement, le leader qui tire la croissance, c'est encore aujourd'hui la Chine, même si le Japon est très loin d'être fini, comme certains le pensent chez nous.
Alors, est-ce qu'on peut voir, Jean-Marie Bouissou, le Japon, finalement, aujourd'hui, tenir un rôle peut-être sans précédent sur la scène internationale? On voit le Premier ministre japonais être très présent dans le monde. Alors, je pense évidemment à cette visite la semaine prochaine, enfin, dans quelques jours, d'ailleurs, visite de Shinzo Abe en Iran, la première depuis 41 ans, je crois, visite prévue donc du 12 au 14 juin. On sait que les liens entre le Japon et l'Iran sont assez étroits, et pour ne parler que de la question pétrolière, alors qu'elle a une proportion finalement assez modeste dans les échanges, 5,3% seulement des importations totales du brut du pays. Que va chercher Shinzo Abe à Téhéran? Quelle mission a-t-il?
Pour élargir un petit peu avant de focaliser sur l'Iran, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Japon se bat aujourd'hui à front renversé. C'est-à-dire que face à Trump, il a, dans cette position paradoxale, de défendre le libre-échange, alors que c'est au nom du libre-échange qu'il a été lourdement attaqué dans les années 1980-1990. Le Japon en champion du libre-échange, ça c'est une nouveauté. Et le Japon a joué un très joli coup en sauvant le partenariat transpacifique quand les États-Unis l'ont quitté. À l'époque, je ne pensais pas que le Japon oserait le faire.
Il arriverait à maintenir ce projet.
Ouais. Il est resté à bord, et en restant à bord, il a permis au projet de se concrétiser. Il a signé un traité de libre-échange avec l'Europe, donc il a là une posture qui est une posture nouvelle. En ce qui concerne les aspects plus diplomatiques, comme par exemple les multiples voyages à l'étranger de M. Abe, qui en a fait plus qu'aucun de ses prédécesseurs, il y a des choses qui peuvent être assimilées à des coups de communication, et des choses qui peuvent faire avancer. Il faut bien reconnaître que tout cet activisme de multiplication des voyages, etc., dont l'Iran bientôt, n'a pour l'instant pas mené à grand-chose. Je pense pas, pour répondre à la question sur l'Iran, que M. Abe soit capable de se poser en arbitre ou, à l'issue de son voyage, de revenir vers M. Trump en lui disant « Les Iraniens m'ont dit qu'ils étaient prêts à vous céder ceci ou cela ». C'est une figure que je ne vois pas trop. Mais il faut bien reconnaître que sur les fronts sur lesquels M. Abe a beaucoup donné de lui-même, ça ne marche pas. Avec la Russie, les relations actuellement sont extrêmement froides. Monsieur Abe espérait avancer sur la question des îles Kourils, ça n'a rien avancé du tout. Et Poutine, à plusieurs reprises, a vraiment traité Monsieur Abe d'une manière qui l'a fait perdre la face. Sur la Corée du Nord, Monsieur Abe, ça serait peut-être un peu exagéré de dire qu'il est danse d'un pied sur l'autre en disant « nous aussi on existe ».
Oui, c'est ça. En tout cas, il l'a clairement fait entendre précisément au moment de la visite de Donald Trump au Japon, oui. Où on a vu Donald Trump affirmer que ça ne l'inquiétait pas trop, essais de missiles il y a quelques temps, qu'il ne constituait en rien une violation de résolution de l'ONU, et le Japon qui, de son côté, a parlé de tirs regrettables. Et voilà, on sent bien qu'il y a, alors peut-être là, une différence d'analyse.
Là, il y a une différence, mais encore une fois, le Japon est complètement hors jeu. Il a des relations exécrables avec la Corée du Sud, en raison en particulier du fait que M. Abe est assez prisonnier de l'extrême droite négationniste pour ce qui concerne tous les crimes de guerre et notamment la très douloureuse affaire de ce que les Japonais appellent les femmes de réconfort. Dans ce moment, de grandes entreprises japonaises sont menacées d'être saisies par la justice coréenne pour payer des dommages et intérêts aux gens qu'elles ont fait travailler de force pendant la guerre. Et les Japonais sont vent debout contre tout cela. Donc on est mal avec la Corée du Sud, on n'est pas sur la même longueur d'onde que Washington. Le Premier ministre Abe continuait jusqu'à il y a très peu de temps à dire « de toute façon, nous ne ferons rien aussi longtemps que la question des personnes enlevées par la Corée du Nord ne sera pas complètement réglée alors que la Corée du Nord dit qu'elle l'est complètement ». Et maintenant, M. Abe vient de sortir l'idée qu'il va aller discuter avec Kim Jong-il, sans précondition. Ce volte-face montre bien que dans cette affaire de la Corée, les Japonais tentent désespérément de rentrer dans un jeu où maintenant ils n'ont rien sur la table.
Valérie Niquet, vous partagez ce que vient de dire Jean-Marie Bouissou?
Alors, sur l'Iran, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est sans doute illusoire de penser que Shinzo Abe va pouvoir arracher une sorte d'accord ou jouer les go-between entre, parce qu'il est face à quand même à des interlocuteurs particulièrement difficiles. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que ça fait partie de ce petit élément de stratégie extérieure qui, depuis les années 70 et la crise pétrolière, a été une spécificité de la stratégie extérieure des du Japon, contre la position américaine. La politique arabe du Japon, la politique palestinienne du Japon, les liens avec l'Iran se sont maintenus en dépit des tensions entre les États-Unis et des États de cette région, parce que justement il y avait cet intérêt énergétique très important pour le Japon, et ça a créé des liens particuliers, notamment avec l'Iran. Alors ça fait très longtemps qu'un premier ministre japonais ne s'était pas rendu en Iran, et là on a un peu l'impression que c'est aussi une manière, en quelque sorte, d'affirmer face aux États-Unis une certaine autonomie stratégique, donc c'est assez intéressant. Avec la Russie, je suis d'accord, le Japon n'a rien obtenu. Mais là, c'est un peu comme avec la Corée du Nord, sur la question des personnes enlevées, pas le reste. Je veux dire, le reste est essentiel pour le Japon, la dénucléarisation, la question des missiles est très importante. Mais là, on voit bien que le Japon est dans une contradiction qui est d'être prisonnier d'enjeux de politique intérieure, dont beaucoup au Japon même, y compris dans les milieux de la diplomatie et d'une manière tout à fait officieuse, reconnaissent que ce sont des enjeux, notamment celles des personnes enlevées, sur lesquels le Japon n'aura pas de véritable prise. Et par ailleurs, si un accord était conclu entre les États-Unis et la Corée du Nord sur la question nucléaire et sur celle des missiles, même si le Japon déclare que la question des personnes enlevées est essentielle, tout le monde sait que cette question-là ne pourra pas faire obstacle à un accord. Sur la question des Kourils, assez récemment, je crois, un homme politique, si je ne me trompe pas, ou un journaliste japonais, a osé mentionner le fait que, bon, il faudrait peut-être un jour faire une croix sur ce sujet-là pour justement libérer d'autres relations possibles avec la Russie, parce que c'est quelque chose qui est absolument insoluble. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux de politique intérieure, mais le Japon n'est pas le seul dans ce cas-là, qui freine en quelque sorte sa marge, qui limite sa marge de manœuvre avec des pays aussi importants que la Russie et sur la question coréenne. Mais effectivement, un émissaire du gouvernement japonais doit se rendre en Corée du Nord, et c'est peut-être aussi là, à la fois c'est un aveu d'échec, mais en même temps une manière de reprendre la main, dans la mesure où, comme l'avait d'ailleurs dit élégamment Donald Trump lorsqu'il avait rencontré la première fois Kim Jong-il, ça n'est pas les États-Unis qui paieraient en cas de réconciliation avec la Corée du Nord, et que ce serait plutôt la Corée du Sud et le Japon. Donc le Japon sera essentiel en termes de participant à toute solution éventuelle dans la péninsule coréenne. Ça explique pourquoi il y va, et pourquoi sans doute on ne peut pas totalement l'écarter.
Alors, quelle lecture faire, Jean-Marie Bouissou, de cet activisme de Tokyo pour promouvoir une région indo-pacifique libre et ouverte, respectueuse de l'état de droit, de la liberté de navigation, de la transparence? C'est un activisme qui vise la Chine, ou est-ce précisément une conséquence de ce que vous évoquiez précédemment, en soulignant que le Japon, d'une certaine manière, était hors jeu? Et est-ce que c'est finalement le seul endroit où il peut exercer une influence?
Je dirais volontiers que de toute façon, c'est un discours qui passe bien sur la scène internationale. Mmh. Ça ne mange pas de pain. Et si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. De même, en ce qui concerne la Corée, où Valérie a tout à fait raison de dire que ce sera au Japon de payer si on trouve une solution au Japon et à la Corée du Sud. Oui, le Japon paiera, mais à mon avis, ça ne lui donne pas une influence particulière. Il paiera parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et que si ce n'est pas lui qui va aider à développer, si un jour elle se développe, l'économie nord-coréenne, ça sera la Chine. Donc, le Japon joue toujours en contre. Et il joue en contre avec, à mon avis, relativement peu d'atouts dans la main. C'est le problème, et c'est pour ça d'ailleurs, d'une certaine façon, que Abe surjoue à l'attention de son électorat. Parce qu'il faut bien avoir en tête, il me semble, que Abe, ce qui l'intéresse au premier chef, c'est la politique intérieure. C'est la politique intérieure, sa politique économique dont nous parlerons plus tard, mais le grand objet, un des grands, immenses objectifs de Abe avant son départ, qui est prévu pour 2021, et qui, avec probablement aucune possibilité de prolongation, il voudrait réformer la Constitution. Il voudrait amender la Constitution, notamment sur l'article 9.
Sur le renoncement à la guerre.
Bien que l'article 9 ne soit plus très gênant maintenant, il faut bien le dire, parce que la réinterprétation, entre guillemets, qu'on en a fait en 2014, ouvre une très large possibilité de manœuvre aux forces d'autodéfense japonaises. Le Japon a d'ailleurs profité du voyage de Trump pour commander 105 chasseurs F-35A.
Qui viennent s'ajouter à une autre commande. Moi, j'avais le chiffre de 195 avions de combat américains F-35.
Oui, sur la durée, oui. Et le Japon vient de reconnaître quelque chose que tous les experts savaient très bien depuis un certain temps, à savoir qu'il a des porte-avions, puisque ce qu'il appelait des porte-hélicoptères, en fait, ont été construits sur le modèle des porte-avions britanniques, sur les plans des porte-avions britanniques à décollage vertical. Alors, il vient de reconnaître, oui, effectivement, c'est des porte-avions. Nous avons maintenant les avions à décollage vertical qui pourront s'y poser. Mmh. Oui, mais ils ne resteront pas à demeure sur les porte-avions, sur le bâtiment. Donc, c'est pas vraiment un porte-avions, quoi. Mmh. C'est une base flottante. Mmh. Oui, c'est oui et non. Bon, mais il faut bien savoir que le budget militaire japonais, par exemple, en ce moment, c'est 42 milliards de dollars. L'équivalent de 42 milliards d'euros.
Oui.
Oui. La France, c'est 36. Mm. Bon, c'est pas exactement calculé sur les mêmes bases, puisque les retraites des militaires sont incluses dans le budget japonais, mais il est maintenant une puissance militaire réelle. Donc, le problème de l'article 9, c'est moins un problème. C'est-à-dire, le Japon pourrait continuer très bien sans changer l'article 9. Mais M. Abe en fait un point d'honneur. Il rêve aussi d'arriver à mettre en branle le processus de reconsidération des condamnations du procès de Tokyo, par exemple. Bon, ça, c'est un des objectifs des deux dernières années, et ça ne passera que s'il réussit parfaitement à sauter tous les obstacles qu'il attend, le G20, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, etc. À ce moment-là, il aura les mains libres en 2021. Et son activisme diplomatique, je veux dire, il occupe la scène en attendant.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Marie Bouissou et Valérie Niquet après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Japon. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Tokyo. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du modèle japonais en 100 questions à paraître en octobre prochain aux éditions Talendier. Et Jean-Marie Bouissou, représentant de Sciences Po au Japon et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Les leçons du Japon, un pays très incorrect aux éditions Fayard. Nous avons terminé la première partie de l'émission en évoquant la puissance militaire du Japon à l'occasion donc de cette acquisition par Tokyo de 195 avions de combat américains F-35 qui finalement donnerait au Japon la plus grande flotte de cet appareil parmi les alliés des États-Unis. Le Japon, acteur stratégique. Valérie Niquet, la question de cet activisme japonais pour promouvoir une région indo-pacifique libre et ouverte, ce que je disais à la fin de la première partie de l'émission, respectueuse de l'état de droit, de la liberté de navigation et de la transparence. C'est une façon pour le Japon d'apparaître aussi avec de nouveaux partenaires et un rôle à développer dans cette région.
Oui, effectivement, c'est un moyen pour le Japon d'apparaître comme un acteur stratégique international, ce qu'il n'était pas. C'est pendant très longtemps, y compris en France, on considérait le Japon comme tout simplement un allié des États-Unis, sans aucune autonomie. Et cet activisme japonais, ou ces positions très fortes adoptées par Tokyo comme champion de cet ordre transparent, respectueux des règles internationales, notamment pour le droit de la mer, eh bien, ça rejoint un discours que la France tient, notamment dans le cadre du dialogue Shangri-La qui vient de se tenir à Singapour, où déjà à l'époque du ministre Le Drian et la ministre actuelle de la Défense, la France a exactement le même discours. Et donc ça crée pour le Japon des nouveaux partenariats dont il peut s'emparer pour justement développer son image internationale. Ça n'est pas hasard si il semblerait que le président Macron aille à Tokyo en visite à l'occasion du G20 quelques jours avant, et des partenariats également avec l'Asie du Sud, notamment l'Inde. Donc tout ça fondé sur des valeurs communes et un rôle en matière de défense qui est encore extrêmement limité. Bien sûr, des évolutions ont eu lieu. Le Japon n'est pas une puissance militaire de premier plan. Son budget a augmenté, mais il est très très loin, par exemple, évidemment, du budget des États-Unis, mais même du budget chinois. Donc on n'est pas du tout là encore dans un pays qui a une autonomie en matière de défense et une capacité d'action en matière de défense qui serait équivalente même à la nôtre. Mais ça développe cette image d'un Japon qui progressivement prend plus de responsabilités en la matière et qui partage des intérêts communs avec l'Union européenne et avec l'Inde, d'où l'adhésion à ce concept indo-pacifique qui est particulièrement intéressant pour la France.
Alors Jean-Marie Bouissou, dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, Les leçons du Japon, un pays très incorrect, vous livrez votre vision d'un pays où vous avez vécu de nombreuses années, un pays dont l'économie stagne, mais où le chômage n'existe pas, vieillissant, mais à la qualité de service incomparable, où la politesse extrême côtoie une justice d'une dureté choquante, et où le culte du zéro défaut n'empêche pas des manquements flagrants à la sécurité. Décryptage.
Le Japon change, il y a un certain nombre de facteurs qui pèsent, qui le tirent vers le bas. Le Japon est un pays qui rétrécit, on peut le dire comme ça, il rétrécit économiquement. Sa part dans le PIB mondial a été divisée par plus de 2 depuis son sommet des années 80. Sa balance commerciale n'est plus tout à fait ce qu'elle était, bien que sa balance des comptes reste extrêmement excédentaire. Mais disons, il a perdu la position de deuxième économie mondiale, il perdra la position de troisième économie mondiale aussi. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qui se produit pour tous les pays développés, avec l'émergence de nouveaux acteurs. Il rétrécit démographiquement, et ça c'est beaucoup plus grave. Le Japon a connu son maximum de population en 2016, et depuis, il perd des habitants chaque année, et l'année prochaine, son déficit naturel sera de 1 million de personnes. Si ça continue comme ça, le Japon pourrait, de 126 millions d'habitants, passer à une centaine seulement d'ici 2060. Le troisième problème du Japon, vous allez dire, c'est peut-être pas un problème, c'est que il a zéro chômage, ce qui est un problème. Au Japon, actuellement, il y a 160 offres d'emploi pour 100 demandes. À Tokyo, si vous voulez du travail, vous n'avez pas la rue à traverser, vous avez juste à descendre dans le métro, à prendre un énorme gratuit qui s'appelle Sumo, et là, vous avez des centaines et des centaines d'offres d'emploi immédiatement. Donc, le Japon rétrécit parce qu'il n'a pas assez de population active. Donc, tout ça fait qu'il y a des facteurs qui le tirent vers le bas. Mais en même temps, le Japon a pris conscience de ses problèmes, et je crois qu'il les d'attaque assez fermement. Par exemple, pour l'immigration. C'est la seule solution possible aujourd'hui et crédible au manque de main-d'œuvre. Le Japon a toujours eu une doctrine d'immigration zéro depuis la guerre. Avant, c'était pas la même chose, depuis sa défaite de 45. Mais aujourd'hui, le Japon, selon moi, est en train de mettre en place un système d'immigration, un modèle qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant. Le Japon, sous divers prétextes, a commencé à non pas accepter des immigrés, mais inviter des travailleurs.
Le Japon, sur une période donnée. Hein, sur une, alors, ça se c'est passe, très simple. C'est une période de 5 ans.
Sélectionné au départ. Alors, il y a plusieurs systèmes. Venant d'abord pour une période courte qui peut être prolongée, sans ayant droit, sans famille, ne restant qu'aussi longtemps qu'ils ont du travail. Et de toute façon, actuellement, il y a toujours un horizon de temps limité, qui est limité à 10 ans pour certaines catégories, actuellement à 5 pour d'autres. Mais on sait très bien que quand la première vague arrivera, au bout des 5 ans, on s'arrangera pour que ça dure. Donc le Japon admet quand même plus de 250 000 personnes par an. Alors il y en a en principe qui sortent à l'autre bout. Mais bon. De même, le Japon a mis au point un système, parce qu'il manque énormément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il manque énormément d'experts, d'ingénieurs, de spécialistes du NTIC. Et il a mis au point un système de permis à points qui fait que les meilleurs postulants peuvent obtenir un visa permanent en un an, en une seule année. Et là, pour le coup, avec leur famille, etc., etc.
Mais les postulants restent toujours issus d'une même région, hein, on est d'accord.
Alors,
aussi.
Alors oui, absolument.
Voilà, ça se limite à l'Asie.
Absolument. Tous les systèmes que je viens de décrire, sauf celui pour les experts, c'est limité à l'Asie. Ce qui fait, je ne sais pas si c'est correct de le dire, mais que le Japon a une immigration qui est peu visible. Parce que ce sont des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens qui en composent la très grande majorité. Rien ne les distingue à première vue des Japonais. Et d'autre part, ils ont partagé avec les Japonais les fondamentaux confucéens. Il n'y a pas aucun problème de fracture religieuse. Et en principe, avec le retour obligé, ces gens retourneront chez eux avec de l'expertise, avec un pécule. Et comme chez eux, que ce soit la Chine, que ce soit le Vietnam, mais les autres pays d'Asie aussi, ce sont des pays qui sont pas, c'est pas des États faillis, c'est des pays qui se développent, ils pourront contribuer au développement. Mmh. Mais de toute façon, il reste une solution pour tous ceux qui veulent rester au Japon, c'est le mariage.
Mmh. Alors, Valérie Niquet, je vous donne la parole. Pour pallier à cette population active insuffisante, on l'a bien compris, cette révolution en termes d'ouverture des frontières, mais sous des conditions bien précises, comme vient de l'évoquer Jean-Marie Bouissou, donc une immigration qui commence à se faire jour et qui, voilà, qui est soutenue année après année. Et puis, là aussi, l'arrivée des femmes de façon plus importante sur le marché du travail.
Alors, oui, effectivement. Alors, pour une raison aussi purement économique, c'est que ça devient... Alors, le modèle traditionnel japonais, qui était le mari au travail, la femme à la maison, avec des conditions de vie dans les milieux des classes moyennes, qui n'étaient pas désagréables. Et d'ailleurs, beaucoup d'une des raisons pour lesquelles certaines... Enfin, le mettre les femmes au travail est difficile, c'est que pour beaucoup de jeunes filles, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais l'ambition de mener la vie d'un salariman moyen n'est pas non plus leur rêve absolu et celui d'une famille traditionnelle. Traditionnelle où elles pourraient rester à la maison, sortir avec leurs amis et avoir une vie très tranquille jusqu'à la retraite avec le drame du retour du mari qui exige ses 3 repas par jour et où il faut se remettre au travail. C'est quelque chose qui existe encore, hein, y compris dans les populations étudiantes féminines. Mais ça devient plus difficile aussi pour des raisons économiques et donc la proportion c'est autour de 70% de femmes en âge de travailler qui travaillent au Japon. Le gros problème des femmes au travail encore aujourd'hui et en dépit des déclarations du Premier ministre Abe sur un pays où les femmes brilleraient ou doivent briller, c'est qu'elles restent dans des positions... Le plafond de verre existe partout pour les femmes, dans tous les milieux d'ailleurs, y compris les milieux de la recherche, des entreprises. Enfin, on sait que même dans nos pays, c'est difficile. Mais au Japon, c'est extrêmement difficile pour une femme de faire admettre qu'elle peut avoir une carrière. Je crois que les grandes banques, par exemple, qui ont longtemps été très, très réticentes, bon, c'est très récemment que des femmes ont été nommées à des postes de très haut niveau dans les plus grandes banques japonaises, notamment la Mitsubishi, il me semble, a fait des efforts en la matière. Mais c'est une situation qui est encore exceptionnelle. C'est la même chose dans le système politique. La place des femmes à un niveau de responsabilité reconnu est encore très limitée au Japon, même si les choses choses évoluent. Alors effectivement, on peut dire que au sein de la famille, et comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, elles règnent sur les finances de la famille, elles s'occupent de leurs enfants, elles sont maîtres dans la maison. Ça ne signifie pas qu'elles ont un rôle véritablement reconnu à l'extérieur, en dehors de leur domaine féminin. Et d'ailleurs, ça explique, parce qu'un des gros problèmes du Japon, c'est la dénatalité et le vieillissement de la population, ce qui explique que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, finalement, font la grève et du ventre et du mariage et n'ont pas du tout envie de s'embarrasser d'un mari dont la mentalité n'a pas véritablement, y compris dans la jeunesse, totalement évolué.
Alors les femmes font la grève et du ventre et du mariage et puis des chaussures à talons hauts. Jean-Marie Buisson, il y a une polémique ces jours-ci au Japon avec un ministre japonais qui appuie ces entreprises qui imposent aux femmes le port de chaussures à talons hauts. Et évidemment, les féministes ne l'entendent pas de cette manière.
Oui, des polémiques, il y en a, et il y a d'autant plus de polémiques sur les détails que les avancées considérables, on les attend encore. Aujourd'hui, au Japon, Valérie le disait fort justement, le plafond de verre est inimaginable. Il y a une femme ministre, une seule. Il y a 47 gouverneurs au Japon, il y a 3 femmes gouverneurs. Il y a 13% de parlementaires. Le Japon se classe dans les 125-135e rang au classement mondial de l'égalité homme-femme. Il n'y a pas de ministère de la condition féminine. La promotion de la femme est confiée à un secrétariat d'État, à la promotion de l'activité civile, etc. Et en même temps que la défense du copyright est dans le même secrétariat d'État, la promotion de l'image du Cool Japan est dans le même secrétariat d'État, etc. Il y a des choses qu'on n'imagine pas. Mais les choses progressent. Peut-être pas de la manière dont elles progressent chez nous, mais elles progressent. Par exemple, si on prend quelque chose qui était vraiment une plaie au Japon, le harcèlement dans les transports en commun. Aujourd'hui, le harcèlement dans les transports en commun est puni de jusqu'à 6 mois de prison et l'équivalent de 3000 euros d'amende. L'année dernière, il y a eu 3000 condamnations sous ce chef. Et un condamné pour cette chose-là, c'est quelqu'un qui, socialement, est fini. Il trouvera très difficilement un bon emploi, par exemple. Donc là, il y a un vrai changement. De même, l'instauration de wagons réservés aux femmes, ce qui est une solution radicale, pragmatique, que les Japonaises apprécient, réservées aux femmes aux heures de pointe seulement. Mais disons que, aux yeux, il me semble, d'une féministe occidentale, c'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut apprendre aux hommes à respecter les femmes, point barre. Vous voyez, ça marche pas exactement comme chez nous. Mais la dénonciation des harceleurs, même si elle n'est pas aussi violente qu'avec Balance ton porc, elle est efficace. L'année dernière, le même jour, on a vu démissionner le gouverneur d'une des grandes préfectures du Japon, Niigata, et le numéro 1 du ministère des Finances, sous accusation de harcèlement. C'est des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 3 ou 4 ans. En ce qui concerne le travail des femmes, les salaires des femmes ont, bien sûr, les femmes aujourd'hui restent encore cantonnées essentiellement dans les emplois qu'on n'appelle plus emplois à vie, mais enfin, et restent cantonnées dans les emplois intérimaires. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le pool des emplois à vie, l'année dernière, le nombre des hommes a diminué de plus de 300 000 et celui des femmes a augmenté de plus de 200 000. Donc, il y a une espèce de transvasement qui est en train de s'opérer. Les femmes accèdent davantage aux meilleurs emplois. Et quand on regarde l'évolution des salaires masculins et des salaires féminins, les salaires féminins n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la crise, alors que celui des hommes a beaucoup pâti, a beaucoup souffert. Donc, oui, la condition féminine progresse. Mais on ne verra pas, il me semble, des quotas imposant une présence des femmes minimale, etc. Ça, d'ailleurs, c'est pas dans les revendications, parce que les femmes japonaises sont très conscientes, comme Valérie l'a dit, qu'elles ont une position qui est très privilégiée de beaucoup de points de vue, notamment la maîtrise des finances familiales, etc., etc. Des réseaux de relations, des réseaux de sociabilité qui sont beaucoup moins pesants que ceux des hommes, etc. Et ça, elles ne veulent pas perdre ces avantages. Alors aujourd'hui, à peu près, on estime aujourd'hui qu'à peu près dans la génération actuelle, 30% des femmes et des hommes ne se marieront pas. Ce qui fait que de toute façon, le modèle traditionnel, il est appelé à connaître d'autres transformations.
Donc un pays en évolution, on l'a bien compris. Quels sont finalement, c'est une question pour vous deux bien sûr, les défis? Le Japon est entré dans l'ère Reiwa, qui a été inaugurée le 1er mai. Il y a plusieurs événements à venir. Alors on a évoqué bien sûr la tenue du G20 à la fin du mois de juin. Mais si on voit un petit peu plus loin, les Jeux Olympiques en 2020, l'exposition universelle d'Osaka en 2025. Quels sont pour le Japon les défis par rapport à ces événements internationaux à relever, Valérie Niquet?
Alors, je pense que ces événements vont être des occasions positives de montrer des aspects extrêmement agréables et qui fonctionnent. Enfin, c'est comme le disait Jean-Marie, Wissou, ce pays qui est soi-disant en crise, ça, il faut bien le voir, est un pays qui fonctionne d'une manière absolument exceptionnelle, particulièrement quand on vient d'un pays européen. Enfin, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement et ça montre bien la résilience du modèle japonais en dépit des contraintes auxquelles il est soumis. Le défi principal, à mon avis, pour le Japon, c'est que le personnel politique réussisse ou accepte de s'adapter à des évolutions sociales qui existent, mais qui bien souvent, on l'a vu avec cette polémique sur les talons, mais il y en a d'autres. Donc un personnel politique qui reste en décalage, et peut-être justement parce qu'il n'y a pas de quota de femmes, parce que ces milieux-là sont moins représentés, qui va être peut-être de plus en plus en décalage avec ce qu'est la société japonaise actuelle, et ça peut peser sur les capacités d'innovation, sur les rapports dans le monde du travail, sur les rapports hiérarchiques, une sorte de monde politique qui reste un peu accroché au passé, qui était celui de la gloire masculine au Japon, et qui a du mal à s'adapter à la société telle qu'elle existe en réalité. Aujourd'hui.
Alors Jean-Marie Bouissou, vous le dites justement dans votre ouvrage que les Jeux Olympiques donc de 2020 pourraient être l'occasion du grand retour du Japon sur la scène technologique mondiale.
Ils essayent de faire tout ce qu'il faut pour, par exemple avec le projet de mettre tout Tokyo en 5G, par exemple, du coup, et que tous les Jeux soient couverts en 5G. Mais ils vont avoir un problème parce que ils sont obligés, les Américains les obligent à ne plus utiliser Huawei.
Oui.
Mais bon, le lancement du maglev, le train à lévitation magnétique, les Jeux de 1964 au Japon, ça avait été les débuts du Shinkansen. Et ils veulent associer les débuts du maglev aux Jeux de 2020, par exemple. Donc ça, c'est un gros défi. Surtout que tout se passe bien. Que tout se passe bien, que les Japonais raflent beaucoup de médailles. Mais la télévision ne nous lâche pas avec les Jeux Olympiques. Le moindre reportage, c'est l'occasion maintenant d'évoquer les Jeux Olympiques. Les Japonais connaissent sur le bout des doigts tous ceux qui ont un espoir de médaille. C'est la grande affaire nationale. Ce qui permet, pendant ce temps-là, de faire passer d'autres choses. Mais bon. Mais je crois que le défi qu'a souligné Valérie, il est extrêmement important. Le renouvellement des élites. Pas seulement l'élite politique. Et l'élite politique, je crois qu'elle est tellement bien verrouillée. En l'absence de toute opposition crédible, qu'elle sera très difficile à transformer. Mais par contre, le renouvellement de la fonction publique. La fonction publique, sauf qu'on ne sait pas assez, s'auto-recrute. On entre dans les grands ministères, pas parce qu'on a réussi un concours. Il faut d'abord réussir un concours, mais après on entre sur entretien. C'est-à-dire qu'on va recruter qui ? Les hauts fonctionnaires recrutent des gens qui leur ressemblent. Là, l'accès à la fonction publique est vraiment complètement arrêté. Les start-up, vous cherchez dans les 50 premiers plus riches du Japon. Des start-upers, il n'y en a pratiquement aucun. Allez, deux ou trois. Mais lancer une start-up au Japon, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui extrêmement compliqué. L'élite économique se renouvelle pas vraiment. Oui, il y a des grandes figures, bien sûr. Mais c'est des grandes figures, bon, par exemple Uniqlo, c'est une très grande figure de start-up d'une certaine façon, mais ça n'est pas révolutionnaire. Donc le renouvellement des élites, je crois que c'est fondamental. Mais je dois dire que je ne le vois pas tellement venir.
Donc un renouvellement. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Jean-Marie Bouissou. Je rappelle que vous êtes représentant de Sciences Po au Japon et auteur de Les Leçons du Japon, un pays très incorrect aux éditions Fayard. Merci aussi Valérie Niquet, vous étiez avec nous par téléphone depuis Tokyo, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du Modèle Japonais en 100 questions, à paraître en octobre prochain aux éditions Talendier. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Kaledek et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée aux États-Unis et à la campagne pour la présidentielle de 2020, campagne en plein démarrage. À demain.